إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous continuons toujours cette série de cours intitulée « Les provisions utiles à l'adorateur ». Nous avons vu dans le cours d'hier un certain nombre de mérites du jeûne prouvés par les textes du Coran et de la Sunna. Nous allons voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, quelques conseils afin que notre jeûne soit accepté. Car comme vous le savez, l'objectif de l'adorateur est que ses œuvres soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, afin d'en obtenir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tes œuvres ne peuvent être acceptées que sous certaines conditions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin » Allah n'accepte que de la part des pieux. L'éminent Cheikh Abdurrahman al-Si'di rahimahullahu ta'ala a dit dans l'explication de ce verset, selon le sens de sa parole, que la parole la plus juste au sujet des pieux ici est qu'ils sont ceux qui font preuve de piété pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ses œuvres, de sorte à ce que l'œuvre soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils suivent en celle-ci la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme nous l'avons vu lors d'un précédent cours, l'œuvre ne peut être acceptée que sous ces deux conditions. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que tu ne recherches à travers ton jeûne, ainsi qu'à travers l'ensemble de tes adorations, rien d'autre si ce n'est que d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa récompense. Et la deuxième condition est que ton œuvre soit conforme à ce qu'a légiféré notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si ces deux conditions sont respectées, alors tu auras fait preuve de piété pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ton œuvre, et tu pourras espérer que ton œuvre soit acceptée. Toutefois, il faut savoir que la piété, elle a un sens plus général que cela. Ibn al-Mubarak, rahimahullahu ta'ala, rapporte dans son livre Az-Zuhd que Bakr ibn Abdillah a interrogé Talq ibn Habib, rahimahumullahu ta'ala, au sujet de la taqwa, au sujet de la piété. Il lui a répondu, la piété consiste à œuvrer dans l'obéissance à Allah, d'une lumière venant d'Allah, en espérant la miséricorde d'Allah. Et la piété consiste aussi à délaisser la désobéissance à Allah, d'une lumière venant d'Allah, en craignant le châtiment d'Allah. On voit donc que cette définition, donnée par Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, est une définition plus générale. Et c'est une définition qui est souvent mentionné et qui est apprécié par les gens de science. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit « C'est la meilleure chose qui a été dite pour définir la piété. » Et l'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit en annotation de la parole de Talq ibn Habib « Il a excellé et a été concis. » En effet, il n'y a pas de piété sans œuvre. Et il n'y a pas d'œuvre sans science et sans suivi. Et ceci ne peut être profitable qu'en étant voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas pour que l'on dise, un tel a délaissé les péchés par la lumière de la science. Car le délaissement des péchés nécessite impérativement de les connaître. Et leur délaissement doit donc avoir lieu par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas pour être complimenté. Et quiconque met en pratique cette recommandation de façon continue obtiendra certes la réussite. Fin de citation de la parole de l'imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers cette définition que la piété consiste à œuvrer, à accomplir des actes d'obéissance, à s'écarter des péchés et des mauvaises actions. Et tout ceci doit être fait avec science et clairvoyance, et ce, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et en craignant son châtiment. Donc l'adorateur, il doit veiller à concrétiser cela dans son jeûne. Et on a déjà mentionné dans des cours précédents que le fait d'atteindre la piété, cela fait partie des plus importantes finalités que l'adorateur se doit de rechercher à travers son jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, Ya ayyuhal ladina amanu, kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala ladina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc le jeûne, il fait partie des plus grandes causes te permettant d'atteindre la piété. Car durant le jeûne, l'adorateur multiplie les efforts. Il fait des efforts pour contraindre son âme à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à s'écarter des interdits d'Allah ainsi que des désirs et des passions. Donc nous allons voir ici, inshallah ta'ala, quatre causes qui font partie des provisions les plus importantes permettant à l'adorateur d'atteindre la piété durant le mois de Ramadan. La première cause, c'est que tu jeûnes avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, quiconque jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec foi, elle désigne le fait d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de croire en la prescription du jeûne et en espérant la récompense, c'est-à-dire en recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et en ne recherchant par le jeûne que son noble visage subhanahu wa ta'ala. Donc l'adorateur, il jeûne durant ce mois car Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne à ses serviteurs. Et en plus de cela, il jeûne en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promise aux serviteurs pieux qui se soumettent à cette prescription. Ceci est donc la première cause permettant d'atteindre la piété par le jeûne. Et comme vous le voyez, celle-ci est liée à ce que l'on a vu dans un cours précédent, au sujet de la purification du cœur et de l'obligation d'être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc veiller à ce que ton jeûne, ainsi que tes prières et l'ensemble de tes adorations ne soient voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, tu atteindras la piété bi'idhnillahi ta'ala. La deuxième cause te permettant d'atteindre la piété est de t'écarter des interdits et des péchés. Et ceci en réalité, si tu médites, ce n'est pas spécifique au mois de Ramadan. C'est plutôt une obligation pour nous, et ce tout au long de l'année. Malgré cela, ceci est encore plus important durant le mois de Ramadan. Et ce étant donné, le mérite et le rang éminent qu'occupe ce mois dans notre noble religion. D'autant plus que durant le mois de Ramadan, il faut savoir que les bonnes actions, elles sont plus grandes, c'est-à-dire qu'elles sont plus décuplées. Tandis que les péchés, ils sont quant à eux plus graves durant ce mois. L'éminent Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, le mois de Ramadan est le meilleur mois de l'année. C'est le mois du pardon, le mois de la miséricorde et le mois de l'affranchissement du feu. Et si le mois est méritoire et que le lieu est méritoire, les bonnes actions y sont décuplées et le péché des mauvaises actions augmente en termes de gravité. Ainsi, une mauvaise action durant Ramadan est plus grave en termes de péché qu'une mauvaise action d'autres mois. De la même manière que l'obéissance durant Ramadan est plus récompensée auprès d'Allah qu'une obéissance accomplie en d'autres mois. Et comme Ramadan a un rang immense, l'obéissance durant celui-ci est très méritoire et elle est grandement décuplée. Tout comme le péché des désobéissances durant celui-ci est plus grave et plus grand en termes de péché qu'en d'autres mois. Fin de citation de la parole de l'éminent Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, le jeûne est une protection. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne prononce aucune parole obscène, et qu'il ne fasse pas de vacarme, et si quelqu'un l'injurie ou l'attaque, qu'il dise alors, je suis jeûneur. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. On voit à travers ce hadith que le jeûne, c'est une protection pour son auteur des désirs et des passions. Et il convient au jeûneur de préserver son jeûne de tout ce qui pourrait le corrompre ou en diminuer sa récompense. Et c'est à cela qu'a fait allusion le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne prononce aucune parole obscène. » Tu dois donc, durant ton jeûne, préserver ta langue. Tu dois aussi préserver ton ouïe de l'écoute de toute parole ou de toute chose interdite. À l'exemple de la musique, ou le fait d'écouter des paroles interdites comme des vulgarités ou des mensonges ou autres. Mais également, tu dois faire des efforts pour préserver ta vue et ne pas laisser aller ton regard sur des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas permis de regarder. Donc le jeûneur, il doit s'éloigner de tous les péchés de manière générale. Mais il doit aussi s'éloigner de tout ce qui peut le mener au péché. Donc par exemple, si tu sais qu'en allant sur Internet ou en te retrouvant seul derrière ton ordinateur ou ton téléphone, ceci peut te mener et te conduire à commettre certains péchés, à écouter ou à regarder des choses interdites. Alors dans ce cas, éloigne-toi de ton téléphone et de ton ordinateur. Et ce, afin de te préserver des péchés durant ton jeûne. Et tu dois faire cela de manière générale, mais d'autant plus durant le mois de Ramadan et lorsque tu jeûnes. Et le fait de s'écarter des péchés, c'est la seconde cause qui te permettra d'atteindre la piété durant ton jeûne, Inch'Allah ta'ala. La troisième cause est que tu profites de ton temps, et ce en accomplissant différentes sortes d'adorations pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant qui désire que son œuvre soit acceptée, il se doit de consacrer son temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout faire pour chercher à se rapprocher de son Seigneur, d'autant plus durant ce mois béni. Donc en plus de l'accomplissement de tes obligations, l'obligation du jeûne, l'obligation de tes 5 prières obligatoires en leur temps, l'obligation de la bonté envers tes parents, et ainsi de suite parmi les obligations qui incombent à chacun d'entre nous. En plus de cela, tu te dois de consacrer le plus de temps possible à la lecture du Coran, à faire des prières surérogatoires, à aider les gens dans le besoin, à préparer ou à financer des repas de rupture pour des jeûneurs, également à prier la nuit, et ainsi de suite parmi les œuvres de bien par lesquelles il te convient d'occuper ton temps durant ce noble mois béni. Tu dois faire des efforts pour ne laisser aucune adoration sans en prendre ta part de celle-ci. Tu prends ta part de lecture de Coran, tu prends ta part de prière surérogatoire, tu prends ta part de l'aumône, tu prends ta part de la bienfaisance envers les nécessiteux, et ainsi de suite. Dans chaque adoration, tu prends ta part de celle-ci chacun à hauteur de son temps et de ses capacités. Et ce, bien sûr, en faisant toujours prévaloir les plus méritoires des adorations. Et tu commences avant cela par tes obligations. Tu dois donc faire des efforts durant ce mois pour consacrer le plus de temps qui t'est possible à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut aucun doute qu'il fait partie des meilleures façons de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois, de lire son noble livre, de réciter le Coran, de mémoriser ou réviser le Coran, de le méditer, de chercher à comprendre ses sens, et bien évidemment, de le mettre en pratique. Et certaines personnes disent, comment faire, car je ne sais pas lire l'arabe. Donc, serais-je récompensé si je lis le Coran selon la traduction de ses sens rapprochés en français? La réponse est que si tu lis une traduction en français, tu es récompensé pour ta lecture car ceci revient à lire un livre de tafsir, un livre d'explication du Coran. Et ceci fait partie de la science profitable. Tu es donc récompensé pour cela, mais tu n'as pas la même récompense que celui qui lit le Coran en arabe. Et les hadiths qui sont venus au sujet de la récompense de la lecture du Coran, ils concernent la lecture en arabe. Toutefois, tu ne dois pas rester indéfiniment dans cette situation, mais tu dois faire des efforts afin d'apprendre ne serait-ce qu'à lire le Coran. Combien d'années vas-tu rester ainsi, sans pouvoir lire la parole de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala? Ce livre qu'il a révélé comme guide pour l'humanité. Comment peux-tu agréer pour toi de rester dans une telle situation avec les jours, les mois et les années qui passent? Il n'y a pas de doute que ceci n'est pas convenable. Il convient plutôt aux musulmans de faire des efforts. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'apprentissage t'a été facilité. Il y a une multitude de cours en ligne qui s'offrent à toi afin d'apprendre à lire l'arabe, mais aussi apprendre à comprendre cette langue qui est la langue dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son livre. Tu dois donc faire des efforts pour cela. Fais des efforts durant ce mois pour apprendre à lire le Coran. Inscris-toi à des cours, cherche un professeur en ligne, apprends à lire et ne laisse pas ce mois se terminer sans avoir appris à lire le livre de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, le croyant, il se doit de mettre son temps à profit dans les œuvres de bien et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala a dit « Il convient à l'homme de connaître la noblesse et la valeur de son temps afin de ne pas en perdre un instant dans autre chose que l'adoration. Et il fait prévaloir ce qu'il y a de mieux parmi les paroles et les actes. » Fin de citation de la parole d'Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Et méditons sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: au jour de la résurrection, les pieds du serviteur ne bougeront pas jusqu'à ce qu'il soit interrogé. Sur sa vie, dans quoi l'a-t-il passé? Sur sa science, qu'a-t-il fait avec? Sur son argent, comment l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé? Et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé? Et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, rahimahum Allah ta'ala. Donc médite sur cette question qui te sera posée au jour de la résurrection. Sur ta vie, dans quoi l'as-tu passé? Et pose-toi la question dès aujourd'hui. Dans quoi je passe ma vie? Mes jours, mes semaines, mes mois et mes années passent? Et qu'ai-je profité de ce temps? Ai-je mis ce temps à profit pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que cette semaine ou ce jour qui est passé m'a permis d'évoluer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ai-je appris une science profitable que je ne connaissais pas hier? Ai-je accompli une œuvre qui m'a permis de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien ai-je laissé ce temps passer et partir en fumée sans en tirer aucun profit, si ce n'est en passant mon temps dans des futilités ou pire encore, dans des péchés et des mauvaises actions? Wallahu al-musta'an. Pose-toi cette question pendant que tu es vivant. N'attends pas le jour de la résurrection afin qu'il ne te reste que des regrets ou al-iyadu billah. Donc, chacun d'entre nous doit se préparer dès maintenant afin de pouvoir répondre à ces questions d'une façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ce, en multipliant les œuvres de bien, en multipliant les actions qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la troisième cause qui te permettra d'atteindre la piété durant le mois de Ramadan, bi'idhnillahi ta'ala. La quatrième cause est que tu préserves ton jeûne, c'est-à-dire que tu le préserves de tout ce qui pourrait le corrompre ou en diminuer la récompense. Comme on l'a dit, le jeûne, il ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire, mais il a un sens bien plus large que cela. En effet, il incombe au jeûneur de s'abstenir de tout ce qui porte préjudice à son jeûne et de tout ce qui en diminuera la récompense, ainsi que de tout ce qui pourrait être une cause de rejet de son adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala: celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et leur mise en pratique, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Médite sur ce hadith immense de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il t'explique la sagesse du jeûne. L'objectif, ce n'est pas que tu délaisses la nourriture et la boisson, mais l'objectif, c'est que tu délaisses les mauvaises paroles et la mise en pratique du mal. C'est ceci qui est visé par le jeûne, et si tu fais cela, tu atteindras la piété, bi'idhnillahi ta'ala. Et on a cité hier la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. On va la répéter encore une fois, car elle est profitable et liée à ce sujet. Il a dit, rahimahullah, le jeûne consiste à ce que les membres s'abstiennent des péchés et que le ventre s'abstienne de la boisson et la nourriture. Il dit ensuite, rahimahullah, de la même manière que la nourriture et la boisson rompent le jeûne et le corrompent. C'est-à-dire, si tu bois ou tu manges pendant une journée de jeûne, ton jeûne sera rompu, il sera annulé. Il dit, rahimahullah, de la même manière, les péchés rompent sa récompense et corrompent ses fruits. Il le rend alors semblable à celui qui ne jeûne pas. Allah al-Musta'an. Les péchés, ils rendent la personne semblable à celui qui ne jeûne pas. C'est-à-dire que s'il commet de nombreux péchés durant son jeûne, il n'aura pas atteint la finalité de son jeûne qui est d'atteindre la piété. Donc ce qui est recherché à travers ton jeûne, comme on a dit, ce n'est pas seulement la faim et la soif. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas légiféré cette adoration immense seulement pour que tu aies faim et que tu aies soif, puis lorsque vient le soir, tu bois et tu manges et tu assouvis tes désirs. Mais ce qui est recherché, c'est ce qui vient après cela, comme le délaissement des désirs, le délaissement des passions, le délaissement des péchés et la prise de contrôle sur ton âme en la poussant au bien afin de la rendre apaisée et qu'elle ne soit plus incitatrice au mal. Il est donc obligatoire pour l'adorateur de préserver son jeûne et de s'écarter de tout ce qui porte préjudice à son jeûne ou pouvant influer sur l'acceptation de cette noble adoration. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a dit à ce sujet: le jeûne n'est pas l'abstention de la nourriture et de la boisson, mais plutôt du mensonge, du faux et de la futilité. Et pas seulement s'abstenir de manger et de boire. S'abstenir de manger et de boire, Le pieux et le pervers en sont capables. Mais le fait de s'abstenir du mensonge, s'abstenir du faux, s'abstenir de la futilité, s'abstenir des péchés, ceci n'est possible que pour le serviteur pieux, bi-idhnillahi ta'ala. Et c'est pour cette raison que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils faisaient des efforts immenses afin de préserver leur jeûne. Il est rapporté d'Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, ainsi que de ses compagnons, que lorsqu'ils jeûnaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils restaient à la mosquée. Et ils disaient, nous purifions notre jeûne. C'est-à-dire, nous préservons notre jeûne de tout ce qui pourrait le corrompre ou en diminuer la récompense. Et ceci, comme on a dit, est la quatrième cause qui te permettra d'atteindre la piété durant ce mois. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le confinement, c'est peut-être pour toi un moyen qui va t'aider à réaliser cette cause. Et ce, en restant chez toi et en t'éloignant des endroits où se trouvent nombre d'interdits et de péchés. Tu vas donc te mettre à l'abri de cela en restant chez toi et en consacrant ton temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, comme on a dit, tu dois faire attention aussi à te tenir éloigné de ces appareils, de téléphone, d'ordinateur, qui pourraient être des causes pouvant dévaster et anéantir la récompense de ton jeûne si tu les utilises dans le mal. Wallah al-musta'an. Donc pour conclure, celui qui jeûne durant ce mois, en croyant sa prescription, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'écartant des causes menant à l'annulation de son jeûne, mais aussi des causes menant à la diminution de sa récompense, et qui consacre son temps à ce qui lui est profitable, comme les actes de bien, les actes d'obéissance et les adorations qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait cela, alors on espère pour lui qu'il atteigne la piété durant ce mois et qu'il fasse partie des serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux de qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte les œuvres. Comme on l'a vu au début de cours, dans sa parole, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah n'accepte que de la part des pieux. Nous devons donc faire des efforts durant ce mois afin de concrétiser cette piété, en nous soumettant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en nous écartant des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de tout ce qui pourrait corrompre ou diminuer la récompense de notre jeûne. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs pieux et d'accepter nos œuvres durant ce mois et je lui demande subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et de faire de cette assise une preuve pour nous, et non pas contre nous, au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.